Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, un bébé s'est fait entendre pour la première fois de l'histoire au Salon Bleu de l'Assemblée nationale cette semaine. Et on s'entretient avec sa mère, Émilise Lessard-Terrien, députée abitibienne de Québec solidaire. Elle nous explique pourquoi il était important pour elle de siéger avec sa fille de 4 mois, Flora. Et on discute de conciliation, famille, politique, évidemment. Mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas.
Y'a sa barbe qui pique un peu, y'a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains.
Bonjour Thomas Mulcair.
Salut l'autre barbu.
Oui, notre co-barbu et accessoirement collaborateur à la joute à LCN et beaucoup collaborateur au Canada anglais.
Oui, voilà, ce qui nous offre l'occasion de bien humer tout ce qui se passe dans les deux réalités linguistiques et culturelles dans le pays.
Puis, ce qui est intéressant aussi, puis la chanson, notre petite chanson qui te présente, dit que ta barbe pique un peu parfois. Et j'aimerais entendre ta barbe piquer face à la démonstration de force de Jagmeet Singh. C'est extraordinaire.
Oh
là, il était puissant cette semaine, le chef du NPD.
Je vais essayer de voir le plus justement possible là-dedans. D'un côté du balancier, je dirais que partout au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont lâché un soupir de soulagement en disant au moins il y avait un adulte dans la pièce, alors que tous les autres marchaient allègrement vers une élection fédérale, générale, en plein milieu de la deuxième vague d'une pandémie. Donc, on va cocher une petite plus pour M. Singh de ce bord-là. Mais côté politique, il va avoir énormément de difficultés et à moyen et à long terme. Une petite image qui me reste en tête de ces débats plus tôt cette semaine, Antoine, c'est Alexandre Boulris, qui, rappelons-le, est le seul député NPD qui reste au Québec.
Mm-hmm.
Bon travail, il est souvent présent. Puis il essaie de picosser un petit peu Yves-François Blanchette. Oh boy, ça, c'était pas une bonne idée. Donc, c'est rare que les deux personnes qui se parlent soient dans le même shot, si vous voulez, la même prise de vue des caméras à la chambre. Mais c'est le cas entre Yves-François Blanchette et Alexandre Boulris, qui est rendu là, donc est assis, parce que c'est la période où on peut poser des questions. Et Blanchette l'a pas marqué. Ah, c'était vraiment un massacre à la tronçonneuse. Il y a rien qui n'a pas dit sur l'attitude du NPD, serviteur du Parti libéral, chien de poche, tout ce genre d'analyse-là. Et pauvre Boulris avait juste à baisser sa tête quasiment sur son bureau. S'il pouvait aller se cacher, je pense qu'il l'aurait fait. Donc, c'était un moment mémorable dans tout ce débat-là où le prix à payer du NPD est apparu là, sur le plancher. Le prix à payer à moyen et à long terme va être, à mon point de vue, dans mon expérience, le suivant. Oui. Rendu aux prochaines élections, que moi je suppute serait dans 6 mois, parce que le gouvernement minoritaire moyen dans l'histoire du Canada, c'est 18 mois, puis ça ne manquerait pas cette fois-ci, ça va être...
Mm-hmm.
Donc, M. Singh va aller prêcher à Vancouver, là où il a son comté maintenant. Il va aller à Toronto, dans les quartiers un peu plus à gauche de la ville, puis Montréal, puis il va essayer de plaider de la manière suivante. Il va dire, on peut pas faire confiance aux libéraux côté progrès social, économique, environnemental. Donnez-moi votre vote. Puis la réponse va être, mais s'ils sont pas si mauvais que ça, pourquoi vous les avez pas améliorés quand vous pouviez le faire?
C'est ça.
Il n'a pas de réponse à ça. Il va essayer de bégayer que c'était parce que pandémie, machin. Mais 6 mois après, quand il y aura déjà un vaccin puis pas de pandémie, ça va être des anciennes histoires, tout ça. Et je pense que M. Singh risque d'avoir moyen à partir avec une explication valable à ce moment-là. Ça, c'est son plus grand défi.
Je pense que le Parti vert aussi est tombé dans le panneau parce qu'ils ont appuyé Trudeau, si je ne m'abuse.
C'était fascinant parce qu'ils avaient annoncé les deux. Hein, Charlie Angus, qui est en fait, le rival principal de M. Singh lors de la course à la chefferie, député de longue date de Timmins dans le nord de l'Ontario, qui parle un peu français en raison de ça, parce qu'il y a beaucoup de francophones dans son bout, parce qu'il est juste sur la frontière du Québec. Lui, la fin de semaine dernière, les signaux ne pouvaient pas être plus clairs de sa part. Lui, il voulait voter contre les libéraux. Et là, j'écoutais chaque mot de son intervention en chambre. Et Charlie est un ancien, est toujours un excellent musicien. Il a remporté des prix Juno à quelques reprises. Et sa chanson en chambre avait juste une note à répétition. Et la note, ça ressemblait à « bip ». Le bruit d'un camion en train de reculer.
Je comprends pas parce que le Parti vert aurait pu se positionner comme à gauche du NPD en disant voilà, les gens qui n'aiment pas le Parti libéral parce qu'il n'est pas à gauche, rejoignez-nous. Alors, c'était une occasion en or pour le Parti vert de se faire valoir.
Et leur nouvel chef, Annemie Paul. Moi, je vais te donner ma perception, mon interprétation. Parce que Annemie Paul aussi donnait l'indication qu'elle allait voter contre les libéraux. Mais l'ancienne chef, qui est toujours députée, tandis que Mme Paul est en élection partielle, puis elle n'est surtout pas députée, son élection partielle s'en vient cette semaine, et elle n'a aucune chance. Mais Elizabeth May mène large toujours. Elle domine complètement les trois députés du Parti vert, et elle a toujours supporté Justin Trudeau et les libéraux sur presque toutes les questions. Donc, je pense que va de faire s'il y avait, c'était remporté par la frange Elizabeth May, responsabilité, il faut appuyer le gouvernement, ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite. Mais dans les deux cas, on voit quand même qu'il y a un schisme entre la base dans le caucus et le leadership ou l'ancien leadership. Alors, ça va être très intéressant de suivre dans les deux camps.
Meilleur commentaire c'est-à-dire humoristique de la semaine, je pense, revient à Alexis Duceppe, qui a dit que le NPD passait de la zone orange à la zone rouge.
Et je l'ai écouté en chambre et il a vraiment tout d'un bon parlementaire. Il va être à suivre. Il est vif. Il est intéressant. Il a l'air aussi de se rendre compte que c'est une fonction sérieuse, avec des sujets sérieux, mais il affiche une demi-sourire la plupart du temps, l'air de dire « OK, c'est sérieux, mais c'est pas grave.
» Parlons maintenant de quelque chose de grave, la polémique de la semaine. Est-ce qu'on doit interdire le mot « nègre » je l'ai dit, là, mais le mot en N, disons, peu importe l'intention de celui qui le prononce, évidemment, ça vient de cette polémique à l'Université d'Ottawa. Et là, il y a vraiment, et je veux profiter de ton statut ou de ta condition de passeur entre les deux solitudes. Pourquoi une différence de réaction si tranchée entre les deux solitudes?
Et c'est pas juste dans le reste du Canada, parce qu'à l'Université Concordia, cette année, on a une prof qui a cité le titre, dans un contexte académique, le titre du livre de Pierre Vallière sur le sort, justement, à l'époque canadien-français en Amérique du Nord, les comparant à la communauté noire aux États-Unis, et ils ont essayé de la faire clairer d'avoir cité le titre d'un livre, pourtant essentiel si on veut comprendre l'historique des relations entre, et je les mets entre guillemets, canadien-français et canadien-anglais. Alors, ça pour moi, c'était un cas clair où on allait contre la liberté académique, parce que là, on est rendu à mettre littéralement des livres à l'index.
C'est ça.
Ça n'a aucun bon sens. Le truc de l'Université d'Ottawa était encore plus révélateur, parce qu'on voit ce schisme, et je lisais en ligne des tweets, notamment à l'égard de cette prof qui est francophone, et les attaques disaient des choses que, comme je l'ai mentionné en blague à l'ajout cette semaine, j'avais littéralement pas entendu le mot « frog » depuis la petite école à la Bord de Plouffe. Je n'en revenais pas, mais on l'attaquait, elle, avec des épithètes racistes, parce qu'elle avait utilisé dans un contexte académique. Rappelons le contexte. Elle est en train de faire une analyse linguistique d'appropriation des termes et comment certains groupes s'approprient un terme qui était jadis une insulte à leur endroit pour l'utiliser eux-mêmes. Donc, elle avait utilisé notamment le mot « queer », qui était une très grave insulte à l'égard des gens LGBTQ pendant des décennies puis des décennies. Et beaucoup de gens dans cette communauté-là, quand ils se décrivent, quand ils parlent entre eux, ils se l'approprient. Et donc, le mot « banni » qui commence en « n », elle a dit de la même manière, les jeunes noirs aux États-Unis
oui.
l'utilisent entre eux. Mais en prononçant cette phrase-là, elle a utilisé le mot dont elle était en train de parler.
Mm-hmm.
Et voilà que c'est parti. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a une quarantaine de profs qui ont signé tout de suite une pétition disant ça n'a pas de bon sens. Ça vaut la peine de rappeler qu'avant que Frémont,
mm-hmm.
le recteur de l'université, lance ses vindictes à l'endroit de cette prof,
mm-hmm.
il ne l'a jamais rencontrée pour la faire entendre. C'est la règle de base de la justice.
C'est odi alteram partem, comme disait ça, Bernard Landry.
C'est ça. Non, c'est ça.
Mais dis-moi, pourquoi une telle réaction? Pourquoi une telle réaction différente et aussi contrastée entre le Canada anglais, et j'inclus Concordia là-dedans, et le Québec français?
Des pierres de touche. Ce sont des tests. Alors, soit tu adhères à la thèse de M. Frémont, il faut lire et relire la lettre de Frémont.
Ah, elle est terrible, cette lettre. Moi, la notion du groupe dominant qui doit se taire, là, c'est épouvantable.
C'est ça. Et puis, toute la terminologie s'y trouve. Les micro-agressions et ainsi de suite.
Ouais.
Comment tu t'en sors? Si quelqu'un d'autre dit que puisque toi, tu ne fais pas exactement comme eux, ils souhaiteraient, que cela constitue une micro-agression qui est évidemment
indéfinie. Mais Thomas, je trouve que je vais invoquer l'article 79 là, à l'Assemblée nationale. Je veux que tu répondes à ma question. Pourquoi il y a une telle différence entre le Québec français et le Canada?
Je pense que c'est ça. C'est ce confort absolu dans une vérité absolue et il n'y a plus de discussion. Et je pense que c'est issu des États-Unis largement, absorbé au Canada anglais largement. Et cette tendance à « ça ne se discute pas, il n'y a pas de débat » est une tendance qui m'inquiète beaucoup,
ben oui,
Antoine.
Certain.
Je vais te dire, quand je discute, par exemple, du projet de loi 21, moi, je suis archi opposé au projet de loi 21.
Ben oui.
C'est tout un argumentaire bien étayé que j'utilise pour appuyer mon point de vue. Quand je suis avec un collègue à la joute comme Mathieu Bock-Côté, qui a une opinion à 180 degrés opposés que moi,
mm-hmm.
je suis prêt à avoir un débat. Puis même quand j'écris parfois au Canada anglais dans ma claim, j'ai écrit un papier là-dessus cet été expliquant, écoutez, là, c'est pas, je dis, moi, je sais où je me situe dans ce débat-là. Mais j'essaie de plaider, mais ça veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de débat.
Mm-hmm.
Alors, au Canada anglais, il peut pas avoir de débat. Donc, moi, j'explique, par exemple, que les tribunaux des droits de la personne en Europe ont déjà statué que les gouvernements, notamment français et d'autres, pouvaient interdire le port de certains signes religieux. Donc, je donne le nom d'analystes, de philosophes, de professeurs, de têtes d'affiches.
De juristes,
oui. Et Elisabeth Badinter, qui tient ce discours-là, je dis, moi, je suis archi opposé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat. Il y a un débat.
Voilà.
Et c'est cet absolutisme très confortable qui est en train de nourrir et de conforter les gens qui prennent cette attitude-là, c'est non, il n'y a pas de débat. Il
mm-hmm.
n'y a pas de débat possible. Donc ça, c'est l'attitude qui se transforme cet été. Je me souviens d'avoir... J'étais à la télé anglaise. Alors, anglaise, j'étais assez quitté. Et ça venait juste de sortir cet esclandre en chambre entre M. Singh et le leader en chambre du Bloc québécois, où il l'avait traité de raciste.
Oui.
Et moi, spontanément, en honte, j'ai dit, wow! J'ai dit, ça, c'est l'arme nucléaire des insultes politiques de traiter quelqu'un de raciste. T'as intérêt à avoir quelque chose de rudement solide pour le prouver. Mais il n'en fallait pas plus que quelque chose qui s'appelle Press Progress, qui fait des analyses, a regardé son site web, a regardé ses tweets du passé. Il a dit, il a déjà dit que tel article écrit par telle personne sur les signes religieux, c'était solide. Et cette personne-là, évidemment, doit lui-même... avoir des points de vue qui sont opposés à la tolérance et tout ça. Donc, par une espèce de A plus B plus C plus D, tout d'un coup, quelqu'un qui regarde l'autre en chambre, puis ils se chicanaient sur une question de procédure, est-ce que vous appuyez ou pas notre motion sans préavis unanimement? Et la réponse, c'était non. Donc, sur une question de procédure et d'opinion politique et parlementaire, tout d'un coup, schling, dans le caisseur, on est traité de raciste.
C'est épouvantable.
Alors, il n'y a pas de point de réplique. Et il n'y a pas de dialogue possible.
Il n'y a juste pas de dialogue, exactement. Je pense que ça résume bien. En terminant, il nous reste peut-être 30 secondes. Le débat hier, il y a eu peut-être dialogue aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. En tout cas, ce n'était pas le combat UFC comme la dernière fois.
Et non, c'est pas le cas, non.
Moi, je me suis endormi, ouais. Tom. Donc, ton verdict en
Bravo.
Quelques secondes.
Que c'est ça qu'il fallait faire. Pour les fins de la cause, je faisais une émission à Toronto après le débat. Donc, j'étais pogné pour regarder jusqu'au bout.
Ouais.
Trump est resté Trump. Biden était avantagé, on a appris, par le Capharnaüm de la dernière fois, parce que ça masquait un peu le fait qu'il cherche souvent ses mots. Mais il s'est montré présidentiel, il s'est hissé au-dessus, il a dit « moi, je vais m'attaquer aux problèmes, pas aux autres, il n'y a pas des États républicains ou démocrates, il y a des Américains, et je pense que c'est ce discours rassembleur qui va le remporter dans 10 jours. »
On a bien hâte de voir, en tout cas. Merci infiniment, mon
Salut,
co-barbu.
Barbu.
Et accessoirement, collaborateur à la Joute à LCN, Thomas Mulcair. Merci. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».